9h, on débute cette édition dans le matin. C'est Corianne qui est avec vous aujourd'hui en remplacement d'Anne-Étier. Et on débute tout de suite avec un bulletin d'information locale et régionale. Félix-Antoine Parent, bon matin.
Salut, Corianne.
Ça va bien?
Ben, ça va bien toi-même.
Oui, ça a l'air d'aller bien. T'es content? Ouais, t'as de l'air comme excité.
Ah, ben écoute, pas tant que ça, là, mais...
Il y a des matins, t'as l'air d'avoir que tes bébés t'ont fait la gueule
toute
la nuit.
Non, écoute, ça a été une bonne nuit, puis c'est mercredi, ça va bien. Là, ben, j'étais en préparation dans ma tête beaucoup de l'heure juste, l'émission d'actualité d'affaires publiques de ce midi. Entre autres, on va revenir sur l'histoire là du jeune bambin qui s'est étouffé début du mois de février au réseau Petit Pas à Maniwaki. Toute une histoire vraiment là, tu sais, en tant que papa d'une petite fille de presque 2 ans puis d'un petit gars de 5 mois, tu sais, c'est le genre de situation qu'on redoute, surtout que nous on a fait ce qu'ils appellent la DME, la démarche
avec
menée par l'enfant.
Ça?
Ouais, c'est ça, ils appellent ça de la diversification menée par l'enfant. Grosso modo, c'est que tu lui donnes justement tu lui donnes une assiette avec des portions là coupées d'une certaine façon pour que ça soit plus sécuritaire, puis c'est l'enfant qui mange à son rythme. Mais je peux te dire que c'est assez stressant les premières fois. Ils prennent des gros morceaux, puis le but, c'est qu'ils apprennent à recracher s'ils l'avalent tout croche.
Ouais.
Fait que c'est normal qu'ils s'étouffent des fois. Mais là, c'est stressant. Fait que là, tu te dis, ils s'étouffent. Ça va-tu passer?
Ça va-tu t'amener?
Ouais, c'est ça. Ben, je te dis, c'était vraiment pas génial. Moi, ça a été une étape assez stressante, mais ça a des bienfaits plus tard. S'il réussit à passer à travers ça, après ça, ben, il y a des bons réflexes pour plus tard. Donc, mais écoute, non, c'est assez stressant. Mais on va en parler aujourd'hui justement de cet épisode-là qui s'est bien fini. Les héroïnes ont réussi à le sauver. C'est le cas, c'est littéralement le cas. Et bref, on en reparle ce midi. Je me suis entretenu aussi avec Éric Bernacci, il est paramédic là, dans la région, puis il est aussi propriétaire de Premier Soins de Gatineau. Il parle de l'importance de suivre ce genre de formation. Puis tu sais, à force de lui parler, on dirait, je me dis, ouais, effectivement, tu sais, quand je vais porter mes enfants, là, de ce temps-ci, ça arrive pas souvent, mais si on va les porter chez papa, maman, des oncles, des tantes, ben, en fait, grand-papa, grand-maman, des oncles, des tantes, des proches de la famille, ben, est-ce que ces gens-là sont outillés si ça arrive? Parce qu'ils peuvent être bien intentionnés, mais s'ils sont mal outillés, ben, ça sera pas de leur faute, mais ils sauront pas comment réagir. Donc, faut quand même y penser, tu sais, même si ça arrive peut-être 1 fois sur 1000, ou 1 fois sur 100, ou ben, c'est qu'il faut que cette fois-là, on soit préparé. Mais bref, soyez à l'écoute de l'heure juste des midis. Il y a d'autres entrevues qu'on va vous diffuser. Entre autres, on a parlé ce matin, c'est une entrevue réalisée par Louis-André Jalbert, concernant la chasse à l'orignal.
Okay.
Les manifestations, on vient tout juste. En fait, hier, on a reçu un communiqué de presse du Conseil tribal de la Nation Algonquine au niveau des négociations. Il donne pas beaucoup de jus par rapport aux négos parce que c'est en cours. Mais on a parlé avec un des négociateurs, là, Lucien Wabanonik, ce matin. Puis je vous passerai cette entrevue-là ce midi. Vous allez savoir finalement où est-ce qu'on en est, ce qu'ils peuvent dire, parce qu'ils peuvent pas tout dire, mais où est-ce qu'on en est jusqu'à présent, puis qu'est-ce qui nous attend dans les prochains mois. Donc, soit aussi, ça risque d'être assez intéressant pour les chasseurs, les pêcheurs.
Excellent, tous les détails. Un rendez-vous à midi et au bulletin d'information concernant les armes de poing, le projet de loi C-21 expliqué par Joël Lightbound.
Oui, le 16 février dernier, le gouvernement fédéral a déposé le projet de loi C-21 dans l'objectif de diminuer la violence faite par les armes à feu au Canada, donnant la possibilité aux municipalités d'interdire ou de contrôler l'entreposage des armes de poing sur leur territoire. Ce projet de loi a été durement critiqué par l'Union des municipalités du Québec et par le gouvernement du Québec. Avec plus de 1100 municipalités locales dans la province québécoise, les élus craignent de voir apparaître 1108 différentes réglementations. Joël Lightbound, secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, explique les décisions de son gouvernement.
Il n'y a aucune obligation pour quelques municipalités de faire quoi que ce soit. C'est une possibilité qu'on offre. Ça répond un petit peu d'abord à un engagement qu'on avait pris lors de la dernière campagne électorale, mais aussi qui fait écho à des demandes qu'on avait particulièrement des grandes villes qui nous disaient on a des problèmes de violence et aux armes de poing, on aimerait les interdire ou avoir la possibilité de les interdire sur notre territoire. Donner cette possibilité-là aux municipalités, mais ça fait vraiment écho à une demande qu'on entendait davantage dans les grands centres.
En mai 2020, quelques 1500 modèles d'armes d'assaut avaient été prohibés par le gouvernement fédéral. Joël Lightbound confirme que les chasseurs ne sont pas visés par le projet de loi 21.
D'entrée de jeu par rapport au projet de loi, c'est qu'on s'attaque sur plusieurs fronts, mais il y a une chose qu'on respecte. On sait que la vaste majorité des propriétaires d'armes à feu au Canada sont des gens qui respectent la loi, qui l'utilisent à bon escient. On respecte ça. C'est vraiment d'essayer d'endiguer la violence faite par les armes, entre autres, dans la criminalité, avec les mesures contre la contrebande, contre le trafic, pour bonifier l'entreposage aussi.
pour tous les détails sur ce nouveau projet de loi et sur l'impact que celui-ci aura dans la vallée de la Gatineau. Soyez à l'écoute de l'entrevue avec Joël Lightbound qui sera diffusée ce midi aussi lors de l'émission L'heure juste.
Et maintenant, on parle d'élections municipales. Le Conseil des maires qui est préoccupé par le projet de loi 85 cette fois.
Oui, le Conseil des maires de la vallée de la Gatineau, à l'instar de plusieurs élus à travers la province, est préoccupé par rapport au déroulement des élections municipales en contexte de pandémie. Plus particulièrement, les élus s'interrogent par rapport au pouvoir que le projet de loi 85 octroierait au directeur général des élections du Québec. Celui-ci pourrait établir des conditions et modalités particulières par rapport au vote par correspondance. Comme le mentionne la préfète de la vallée de la Gatineau, Chantal Lamarche, les frais engendrés par le vote par correspondance sont élevés et nécessitent des ressources humaines plus importantes.
Établir les conditions et demandabilité du vote par correspondance, ça veut dire que c'est 45 $ la fiche, on est 20 000 dans la MRC. Faites le calcul, c'est 900 000 $
Selon cette dernière, il serait préférable d'ajouter des journées de vote, ce qui serait beaucoup moins coûteux. Le Conseil des maires de la vallée de la Gatineau aurait souhaité que les présidents d'élections municipaux puissent être consultés afin de prendre en considération les réalités rurales qui diffèrent des réalités urbaines.
La façon qu'on vote à Gatineau, qu'on vote à Montréal est différente de chez nous. Fait qu'avant de donner un pouvoir complet au DGEQ, ben, on veut s'assurer qu'on va être consulté. Au moins les directeurs d'élections, parce que on n'a pas la même réalité. La Montréal, elle pas à chasse, le 7 novembre.
Les maires de la région, en fait, ont mandaté la préfète Lamarche afin qu'elle partage leurs préoccupations auprès des autorités concernées et qu'elle émette des recommandations qui cadrent avec la réalité de la vallée de la Gatineau.
Et en terminant, Danse Action réclame le retour des cours de groupe.
Le retour de l'Outaouais au palier d'alerte orange n'a pas été bénéfique pour tous. Même si les salles à manger, les centres de conditionnement physique peuvent ouvrir, les cours de groupe restent, eux, interdits. L'organisme sans but lucratif Danse Action déplore le fait de ne pas pouvoir reprendre les cours de groupe. Seulement un ou deux jeunes à la fois peuvent se rendre au studio pour recevoir des cours. Il n'est donc pas possible à l'école de danse d'offrir des cours à tous les élèves. Même si l'école offre des cours virtuels, ceux-ci attirent uniquement 20 à 30 % de la clientèle habituelle. La reprise des cours de groupe serait également positive à la santé mentale des jeunes. Mélanie Morin, présidente de Danse Action, précise.
On a des ados qui sont juste à bout de faire l'enseignement en ligne. Donc, faire un autre 2-3 heures de danse le soir, c'est trop. La plus jeune clientèle que pour eux suivre un cours via une caméra, l'attention n'est juste pas là. Et on a une partie de notre clientèle qui ont simplement pas accès à une Internet. Donc, nos profs essaient de garder le moral pour nos jeunes. On continue à offrir le service. La danse, c'est pas juste la santé physique, mais c'est bien pour la santé mentale également.
Danse Action fait partie des regroupements des écoles de danse en Outaouais et elle a participé à la manifestation en décembre dernier. Une lettre a également été envoyée aux députés pour le sensibiliser par rapport à la cause. La présidente indique avoir une solution qui permettrait la reprise des cours tout en respectant les consignes de la santé publique.
Ce que nous, on propose environ 10 élèves dans un très grand studio. Habituellement, on avait deux studios. Là, on l'a transformé dans un grand studio. On a des marqueurs au sol qui assurent que les élèves sont toujours à 2 mètres de l'un et l'autre. Prise de température frontale quand ils rentrent. Registre de présence. Masque en tout temps pour tous les élèves de 10 ans et plus. Un groupe rentre par une porte et sort par l'autre porte. 15 minutes entre chaque groupe pour permettre toute cette désinfection-là.
L'école de danse connaît des difficultés financières avec cette baisse considérable d'inscriptions et l'annulation du spectacle de fin d'année 2020. Mme Morin précise que même si l'argent n'entre pas, l'école doit tout de même payer ses professeurs, le local, le service Internet et les autres frais fixes qui sont reliés à l'activité.
Merci beaucoup, Félix-Antoine. On te retrouve dans un peu plus de 20 minutes pour parler du contenu du prochain bulletin.
À toutes.
À tantôt.